Avez-vous déjà entendu parler de la taxe Robin des Bois ?
Oui, c'est... C'est une bien belle idée. Taxer les banques pour aider les pauvres, mais je ne crois pas que ça fonctionnera. C'est très compliqué et ça serait un coup dur pour tout le secteur bancaire.
Qui s'est vu attribuer des milliards d'euros provenant des contribuables pour le faire perdurer ?
Oui, c'est vrai. Vous avez raison.
Et qui continue toujours à se verser des milliards d'euros de bonus.
En effet.
Et donc cette taxe pourrait être prélevée sur les opérations boursières des marchés financiers ? Options et obligations, produits dérivés, achats de devises, etc. C'est exact.
Oui, c'est à peu près ça. C'est extrêmement complexe.
Donc, les acteurs des marchés financiers donneraient combien pour chacune de leurs transactions ? 25% ?
Non. Non, non, pas autant.
10% ?
Non.
5% ?
Non plus, pas 5.
Plus ou moins ?
Légèrement moins.
1% ?
Pas tout à fait.
0,5% ?
Non.
1 pour 1000 ?
Non.
La moitié, ce qui ferait 0,05% de chaque transaction.
Oui, c'est à peu près ça.
Il arriverait parfois que ce soit encore moins. Aux yeux du monde, ce n'est qu'une infime partie.
Je l'accorde. Oui, vous avez raison.
Et combien est-ce que ça générerait d'argent pour aider les plus pauvres ?
Une quantité non négligeable.
1 million d'euros par an ?
Non, plus que ça.
100 millions d'euros ?
Plus.
500 millions ?
Bien...
1 milliard par an ?
Non, c'est légèrement plus que ça, il paraît.
10 milliards ?
Plus.
50 milliards ?
Oui, ça semble correct.
En fait, il semblerait que ce soit plus de 100 milliards d'euros. Ce serait en réalité plus du double.
C'est possible.
Oui. Parfait. Alors que je comprenne bien. Une petite taxe sur les transactions financières pourrait générer chaque année des milliards pour sauver la vie des gens les plus démunis, financer la lutte contre les changements climatiques, ou les services de base, comme la santé ou l'éducation, dans le monde entier.
Mon Dieu, eh bien oui. Oui, c'est effectivement ce que ça permettrait.
Et si l'on plaçait l'humain au centre de l'économie ? C'est le slogan de la June, une monnaie libre née le 8 mars 2017. Pour comprendre ce qu'est la June, sa création, son fonctionnement, ses enjeux, je me suis rendue aux rencontres de la monnaie libre organisée à Douarnenez, ces 24, 25, 26 et 27 mai.
Dans les banques, il n'y a pas de l'oseille, il y a des employés qui font leur métier, et c'est bien comme c'est. On a, moi pas, quand j'en aurai, ça va changer. Je me paierai des habits prince de Galles et j'aurai des amis dans la salle. T'en as, moi pas, quand j'en aurai, ça va changer. Quant au pépé, j'aurai plus qu'à me baisser ou qu'à les ramasser, à moins qu'elle sache grimper.
La June est une monnaie cryptographique à dividende universel fonctionnant grâce à un logiciel libre d'Uniteur. Elle est basée sur la théorie relative de la monnaie, élaborée par Stéphane Laborde.
Je m'appelle Stéphane Laborde, je suis développeur de la théorie relative de la monnaie sur le site créationmonétaire.info depuis 2008 environ. C'est donc une théorie qui va réfléchir, refonder en fait la monnaie et voir du coup, à la lumière de ces fondements, qu'est-ce que l'on peut donc voir comme causalité dans le monde économique tel qu'il est, mais aussi qu'est-ce qu'il serait possible de faire et d'expérimenter pour voir éventuellement de nouveaux résultats. De cette théorie donc est née la possibilité d'une monnaie libre. Pourquoi June ? Alors du coup, en fait, j'ai pas vraiment choisi moi le nom June. Bon, il se trouve que en développant la théorie relative de la monnaie, j'ai parlé des valeurs économiques qu'on pouvait pas reconnaître. Alors ça veut dire quoi les valeurs économiques qu'on ne peut pas reconnaître ? C'est de là que va venir le mot June justement. Ça veut dire quoi ces valeurs économiques en fait qu'on ne reconnaît pas ? Mais notamment c'est celles qui sont nouvelles. Voilà. Alors elles sont reconnues par leur créateur, mais pas par ceux qui l'ignorent. Alors, on peut donner un exemple dans le passé, on ne peut pas donner des exemples au présent par définition. On ne les reconnaît pas. Mais dans le passé, imaginons le micro-ordinateur développé par certaines entreprises et certains jeunes créateurs d'entreprises dans les années 70. On peut parler de Steve Jobs ou même Bill Gates, plus pour l'informatique d'ailleurs que pour l'ordinateur lui-même. Mais Steve Jobs avait l'Apple, etc. Voilà. Bon, mais il développe ça. Au début, il y a très très peu d'amateurs de ce type de valeur. Donc au départ, voilà, il y a quelques êtres humains dans ces époques-là, dans les années 70-80. Il y a quelques êtres humains, alors ils peuvent être nombreux, ils peuvent être 10 000, 20 000, peu importe, mais c'est loin d'être une majorité de gens qui connaissent ce type de nouvelles valeurs économiques, qui les adoptent, qui sont prêts à payer pour les en obtenir, etc. Et travailler avec, essayer de faire des trucs avec, c'est un truc nouveau. Mais c'est loin d'être la majorité. Pour la majorité, c'est des choses inconnues. Mais pourtant, elles existent bien à ce moment-là. Mais elles sont en plein développement, en pleine explosion, en pleine création. Et donc, on peut parler ici de G-valeurs, c'est-à-dire des valeurs indécidables, des valeurs précédées du fameux sigle G, voilà, ce fameux sigle G que j'ai un peu essayé de formaliser dans un site qui s'appelle G-Libre, voilà, et qui représente ce qu'en mathématiques, on peut appeler les vérités indécidables, et qu'on peut généraliser en général, donc, à tout ce qui, dans un système formel quelconque, que ce soit en économie, en physique, en musique, en ce qu'on veut, représenterait quelque chose, vraiment, voilà, qui sort on ne sait pas où, que les gens n'arrivent pas à capter quand ça sort parce que c'est trop nouveau, et donc même si, quand c'est devant leurs yeux, ils ne voient pas trop de quoi il s'agit, et qui sont, voilà, des valeurs, des phénomènes physiques, des vérités mathématiques, des musiques indécidables, nouvelles, qui ne rentrent pas dans les schémas, qui sortent du connu. Voilà, voilà donc d'où sort le sigle G, et où j'ai dit, donc on pourrait très bien intégrer ce sigle G devant toute chose qui sortirait un peu de sa vocation première. On pourrait parler, par exemple, je ne sais pas, d'une G automobile, concernant une automobile qui aurait des propriétés remarquables que n'auraient pas les automobiles générales. Et voilà, donc on peut précéder les noms de ce fameux G pour décider de dire, voilà, c'est une valeur qui ressemble un peu à l'ancienne, mais qui n'est pas vraiment l'ancienne, voilà, qui est quelque chose qui apporte une nouveauté, un truc qui ne rentre pas dans les cases connues. On pourrait même imaginer des choses encore plus violentes, parce que là, bon, avion, automobile, on voit à peu près ce que c'est. Mais si on parlait d'un G-truc, qui fait des choses tout à fait insoupçonnables, on serait encore plus dans la vérité de ce que ça représente. On est là avec ces G-valeurs, on est sur ce principe-là, avec ce fameux sigle G. Et puis donc, ben, simplement, c'est les développeurs d'unitaire qui, en se posant la question sur quel nom on allait donner à ces monnaies, ben, on trouvait naturel finalement, petit à petit, de l'appeler G quelque chose. Et puis finalement, ben, le sigle 1 est arrivé, se dit, ben, c'est la première. Alors on va l'appeler 1, G1 au départ. Et puis après on s'est dit, ouais, mais G1 c'est difficile à prononcer. On a cherché de comment la prononcer, G1, G ceci, cela. Et puis finalement, J ne s'est imposé. D'autant qu'en plus on a créé la monnaie, il se trouve par un peu par hasard aussi, mais le jour le 8 mars, qui est un peu le jour des droits de la femme, je crois bien. Et donc on s'est dit, ben finalement, ouais, la june, bon, il y a plein de monnaies qui sont aussi féminines, hein. Il y a la lire, la livre, il y en a plein. Et donc pourquoi pas la june, finalement, plutôt que de l'appeler G1 ou G1, on va l'appeler la june. Ça sonne mieux en bouche.
Voici un extrait de la note d'auteur du livre « La théorie relative de la monnaie » pour les enfants. Qui crée la monnaie et à destination de qui? Intuitivement, un enfant le comprend rapidement. Il n'y a aucune équité là-dedans. La monnaie est manifestement un outil de pouvoir, se trouvant entre les mains de quelques-uns. Alors peut-on parler de démocratie sans se sentir ridicule? Certains s'en accommodent très bien. Pour ma part, je n'ai jamais réussi. Argent et démocratie forment un couple relevant de la farce humiliante et insupportable.
Un banquier est un homme qui vous prête un parapluie quand il fait beau et qui vous le retire quand il pleut.
Anonyme du XVIIIe siècle.
Alors, mais quelle est la différence entre la monnaie standard et la june? Ben la monnaie standard se crée sur la base de dette. Elle circule, elle existe que parce que quelqu'un a, en fait, s'est endetté, et s'est endetté en fait sous forme de crédit bancaire. C'est-à-dire les banques émettent des crédits remboursables qui en fait sont de la création monétaire. C'est-à-dire les crédits sont des unités de monnaie. Donc on va les appeler non libres puisqu'elles ne sont pas justement comme la june. Mais donc ils émettent ça sous forme de dette. Et les plus demandeurs de dette, les plus qui participent le plus aux dettes, c'est les États. Donc c'est des dettes. Donc c'est une monnaie qui est soumise à des contrats de remboursement par ceux qui ont accepté ces crédits. Donc en pratique, tout le monde ne rembourse pas, notamment les États ne remboursent pas cette quantité, parce que s'il l'a remboursé, il faudrait assécher les euros. Il faudrait d'une façon ou d'une autre récupérer toute cette dette qui circule. Et donc la June a cette propriété de ne pas être de la dette. Et après, on peut créer une monnaie locale qui soit fondée sur une valeur économique de référence tierce. C'est ce que sont beaucoup les monnaies, ce qu'on appelle complémentaires ou citoyennes aujourd'hui, qui en fait ne sont pas des vraies monnaies produites, puisqu'en fait, pour qu'elles viennent à l'existence, il faut donner de la monnaie non libre dominante. On donne cette monnaie, et en échange, vient à l'émission, une part de cette monnaie locale. Donc il n'y a pas de véritable production, c'est plutôt un bon d'achat. Bon, ben là, et la monnaie locale ici est limitée en termes d'usage au territoire. Alors la différence entre la June et le Bitcoin, c'est pareil que ce que je viens de dire sur les locales, sur les monnaies locales, c'est le code de création. Comment se crée le Bitcoin? Le Bitcoin se crée par le travail des machines. Il n'y a rien dans le Bitcoin, dans le code Bitcoin, qui identifie les êtres humains. Donc qu'il y ait deux personnes qui fassent tourner le Bitcoin, ou 1 million de personnes, ou 100 000, il fonctionnera de la même façon. Les machines qui trouvent les blocs créent du Bitcoin. Voilà, c'est comme ça que les bitcoins viennent à l'existence, avec la condition supplémentaire que le nombre de bitcoins total est fini. C'est 21 millions de bitcoins. Donc, passé la période de création des 21 millions, premiers millions de bitcoins, ou des 19 millions, premiers millions, peu importe, il restera une petite quantité à créer encore. Et donc, il n'y aura pas possibilité pour les futurs êtres humains d'en produire la même quantité que les premiers. Ils en produiront une part infime par rapport à l'existence. Ça, il faut comprendre ça. Et il n'y a rien dans Bitcoin qui identifie l'être humain. Alors que dans la June, le premier paradigme qui inclut la June, bien que ce soit une blockchain aussi, comme dans le Bitcoin, c'est-à-dire techniquement, il y a un sous-jacent, si vous voulez, technique, ou des idées techniques, si vous voulez, qui font qu'on est sur une base de données décentralisée, il n'y a pas de centre, c'est pas un serveur central, c'est une pluralité de machines qui font tourner la June, comme il y a une pluralité de machines qui font tourner le Bitcoin. Mais dans la June, ce n'est pas les machines qui créent la monnaie. Les machines sont là pour partager la base de données, uniquement, mais la monnaie est créée tous les jours sur la base des utilisateurs humains qui sont enregistrés en tant qu'êtres humains dans la June. Le point central de la théorie relative aux monnaies, c'est de reconnaître que le fondement de l'économie, c'est bien l'homme, et c'est pas les valeurs. C'est pas l'homme qui doit courir après les valeurs, mais c'est bien les valeurs qui sont issues des hommes.
Tout membre doit être reconnu par la toile de confiance, June, pour en faire partie. Ainsi, tout individu qui souhaite intégrer la toile de confiance June devra produire, à l'aide de logiciels, une identité qui devra être reconnu par des membres existants de la toile de confiance. Cet acte de reconnaissance est appelé certification.
Je m'appelle Eloïs, donc j'ai découvert la TRM il y a 2 ans bientôt, et je me suis dit il faut absolument que quelqu'un le mette en pratique, et j'ai découvert, j'étais content qu'en fait il y a un projet qui existait déjà, il y avait le projet d'Uniter donc, qui voulait mettre en œuvre la théorie relative de la monnaie. Et donc j'ai rejoint le projet tout de suite. Il s'avère que quand j'ai découvert le projet, c'était juste un mois et demi avant les RML 8 de Toulouse. Et donc c'était pas loin de chez moi, je suis dans le sud à Montpellier, donc je me suis dit Toulouse c'est pas loin, je vais y aller. Et c'est là que j'ai pu rencontrer les autres développeurs, les gens me rassurer que voilà, c'est des gens normaux, c'est pas des... voilà, j'avais besoin de les rencontrer avant quand même. Et une fois que je les ai rencontrés, là j'ai commencé à contribuer après au code petit à petit. L'euro n'est plus indexé sur l'or depuis longtemps, tout comme le dollar et beaucoup d'autres monnaies. Ça, c'est le problème d'avoir un étalon, en fait, c'est que ça ne marche pas. Ils ont enlevé l'indexation sur l'or parce qu'ils n'avaient pas le choix, en fait. Parce que l'économie avait besoin de monnaie, et donc le stock d'or dans le monde ne pouvait plus suivre, en fait. Et donc, à un moment, on dévaluait à chaque fois le dollar sur l'or, et puis à un moment, c'était plus possible. Donc, ils ont arrêté cette parité idiote, en fait. D'autant que le problème d'étalonner une monnaie sur un objet physique, c'est que les propriétaires de cet objet physique ont un pouvoir énorme sur la monnaie. Ceux qui possédaient les mines d'or et qui savaient, ils pouvaient faire varier le stock d'or à mettre à disposition sur le marché, ils pouvaient mentir sur le stock disponible pour faire fluctuer le cours de la monnaie selon leurs avantages, selon ce dans quoi ils avaient investi, et donc ils ont un avantage considérable sur les autres acteurs économiques. Donc ça pose d'énormes problèmes. Ensuite, une monnaie, c'est un outil d'échange, c'est pas un objet. Une monnaie, c'est important, c'est ce que montre la théorie relative de la monnaie. Elle doit suivre le flux d'humains, etc. C'est un outil d'échange qui doit être calé sur l'espérance de vie. Et donc, elle n'a pas à être calée sur une valeur économique particulière, que ce soit l'or ou autre chose. Ça, c'est très important. Donc, aujourd'hui, toutes les monnaies que vous utilisez, que ce soit l'euro, le dollar, le yuan, sont ce que j'appelle moi des monnaies primaires ou ce que certains économistes appellent des monnaies autoréférencées, c'est-à-dire qu'elles sont leurs propres références. Elles ne sont pas adossées sur un objet physique quel qu'il soit. Et c'est une très bonne chose, c'est ce que montre la TRM. Il ne faut pas qu'une monnaie soit adossée sur une valeur physique. Et donc c'est le cas de toutes les monnaies fiat aujourd'hui. Ce qu'on appelle une monnaie fiat, c'est les monnaies régaliennes, les monnaies d'État. Mais c'est aussi le cas de toutes les crypto-monnaies. Il n'y a aucune crypto-monnaie à ma connaissance. Peut-être qu'il y en a quelques-unes, mais ça ne m'intéresse pas. C'est des trucs qui soient adossés sur une valeur physique. Et c'est vrai qu'on a une croyance collective très ancrée comme quoi il faudrait être adossé sur l'or, mais c'est idiot en fait. Parce que l'or, ça n'a pas de valeur, on ne fait rien avec. Il y a des peuples, il y a certaines cultures pour qui l'or ne vaut rien. Et pour la monnaie libre, c'est basé sur l'être humain. C'est chaque être humain qui est co-créateur de la même part de monnaie. Et du coup, ça remet l'humain au centre de l'économie. On veut être indépendant, voilà, on sait que l'État est financé en monnaie dette et donc est potentiellement en conflit d'intérêts. Donc on ne veut pas dépendre de lui pour émettre des documents d'identité, car dans ce cas, il pourrait très bien émettre beaucoup de faux documents d'identité pour créer des faux comptes et créer plus de monnaie que nous, dans la June. Donc en fait, il peut tout fausser. Et en plus, on empêcherait les sans-papiers ou les apatrides de rentrer dans le réseau. Et puis les documents d'identité, ça peut se falsifier. Donc on ne veut pas dépendre des documents d'identité, ça c'est clair. Et plus généralement, on ne veut pas dépendre d'une institution centralisée. Et donc finalement, le seul moyen qu'on a, c'est le réseau social, c'est de faire confiance en le tissu social humain. Et le fait qu'on se connaît les uns les autres, et on se base aussi sur la théorie des six poignées de main qui dit qu'on est tous proches les uns des autres, et qu'entre vous et n'importe qui sur Terre, il y a au plus cinq relations intermédiaires. C'est pour ça qu'on dit souvent « le monde est petit ». Parce que finalement, vous connaissez quelqu'un qui connaît aussi des gens que vous connaissez par d'autres intermédiaires, par d'autres chemins que vous ne soupçonnez pas. Et dans ce cas-là, on dit « ah, mais le monde est petit en fait ». Et c'est sur ce constat-là qu'on a basé la toile de confiance en disant « on va faire en sorte que pour rentrer dans le réseau, il faut être proche des autres. Et donc, si vous êtes proche des autres, ça veut dire que vous êtes vraiment un humain réel, unique et existant. Et donc, pour rentrer, il faut être certifié par 5 personnes qui sont déjà membres de la monnaie. Donc, il faut aller les rencontrer dans un groupe local près de chez vous, lors d'un apéro, etc. Et ça permet de garantir que, même avec le temps, la monnaie va rester vraiment décentralisée, distribuée. Et ça, c'est très important. Donc, quand vous rentrez dans la monnaie, vous acceptez une licence qui dit comment vous pouvez certifier, qu'il faut bien connaître la personne. Ça, c'est vraiment important. Et c'est aussi un facteur limitant. Il est vrai que cette toile de confiance, elle limite l'expansion. C'est-à-dire que sans toile, on serait peut-être déjà 100 000, qui sait. Mais à quoi bon ? Si on était 100 000, mais qu'on dépend d'une institution centralisée, en fait, ça ne sert à rien. Parce que, pour moi, toutes les alternatives qu'on lance, si elles sont centralisées, à un moment, elles vont être récupérées et corrompues. Parce que quand vous concentrez le pouvoir à un endroit, c'est mécanique, la corruption vient corrompre ce pouvoir. C'est parce que l'humain est corruptible, naturellement. Donc pour empêcher ça, il ne faut pas concentrer trop de pouvoir à un même endroit. Donc si on n'avait pas de toile de confiance et qu'on avait un système centralisé pour reconnaître de façon unique les humains, ce qu'on ferait servirait à rien. Dans 10 ans, 15 ans, ça serait récupéré et ça serait transformé en un truc capitaliste, récupéré par les banques. Enfin, voilà. Non, nous, c'est un projet long terme. On veut vraiment que la monnaie libre soit vraiment émancipateur et que ça change vraiment la société en profondeur sur le long terme. Et donc, on veut quelque chose de solide et c'est pour ça qu'on a choisi la toile de confiance. Donc, ça sera plus long à se développer, mais le but, c'est que ça tienne sur plusieurs générations, sur plusieurs siècles, voire millénaires. C'est le choix qu'on a fait, en tout cas, pour le projet d'Uniter June.
D'Uniter est un logiciel. Son but est de permettre la production d'une nouvelle valeur numérique ou électronique ayant toutes les caractéristiques d'une monnaie libre. Tout membre est coproducteur de la monnaie June à travers le dividende universel. Lorsqu'un dividende universel doit se produire, chaque membre de la monnaie produit automatiquement, grâce au logiciel d'Uniter, sa propre part de monnaie nouvelle. La seule action requise pour bénéficier de ce droit de production, via dividende universel, est de devenir membre de la toile de confiance.
Je m'appelle Millicent. Je suis un contributeur de l'écosystème de Duniter depuis, de la June, depuis un an et demi à peu près. Je me suis intéressé à la théorie relative de la monnaie très tôt, mais de très loin. C'est-à-dire que j'ai découvert l'existence du concept en 2010, quand Stéphane Laborde est venu en parler aux rencontres mondiales du logiciel libre sur Bordeaux. J'ai regardé ça de loin en vivant ma vie. Et puis, Et puis en 2015, je crois, je suis allé au RML7. Et depuis les RML7, je vais à chacune. Et aux premières, j'étais plus en touriste qu'autre chose. Et puis plus je m'investis. Et là j'ai présenté plusieurs cons sur différents outils que je développe dans l'écosystème de Dunitaire. La monnaie libre est une crypto-monnaie. Toutes les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies libres. Une monnaie, ça reste un vecteur de confiance. La valeur d'une monnaie, c'est est-ce que en ayant cette monnaie entre les mains ou sur mon compte, j'ai confiance dans le fait que je vais pouvoir obtenir quelque chose que je souhaite obtenir. Si cette confiance y est, que ça passe par du numérique et par de la confiance entre les gens, que ça passe par de la confiance dans le fait que de l'or pourrait être échangé pour obtenir, au final, l'or, moi, je ne vais pas le manger. Donc, peu importe quel est le vecteur de confiance, la monnaie, ça reste de la confiance dans le fait de pouvoir répondre à ses besoins avec. On peut utiliser la monnaie sans être membre. On peut créer un compte portefeuille et proposer des services pour obtenir de la monnaie et avec cette monnaie acheter des choses. Mais si on veut participer à la création monétaire, donc avoir ce fameux DU quotidiennement, il faut être membre. Et pour être membre, il faut être certifié par au moins 5 membres existants. Ce qui m'amène à m'investir le plus dans la monnaie libre, c'est le fait que c'est là où, en tant qu'informaticien, j'ai l'impression d'avoir le levier d'action, le levier de changement le plus important pour faire évoluer le monde dans une direction qui me fait espérer en un monde meilleur. Le concept de liberté de choisir sa monnaie me paraît très intéressant, et je trouve d'ailleurs que dans la communauté actuelle de l'Unitaire, cette notion de parler de monnaie libre au pluriel et de considérer que c'est essentiel qu'il y en ait plusieurs se perd un peu. Alors, par moment, j'entends que c'est temporaire et que ça va revenir. Par moment, j'ai l'impression que ça se perd quand même. J'espère que ça reviendra d'ici quelques années. Parce que si la June devient hégémonique comme l'est l'euro actuellement en France, du coup, les gens seront obligés d'utiliser la June. Et s'ils sont obligés d'utiliser la June, ils n'ont plus le choix de la monnaie, donc ça enlève une liberté monétaire. Et je trouve très intéressant cette liberté de monnaie. À côté de ça, la pluralité de monnaie implique mentalement de savoir « Ah tiens, j'ai telle monnaie, telle monnaie, telle monnaie, quelle monnaie j'utilise à quel moment, quelle est la valeur de telle monnaie, de telle autre ?» Ça peut complexifier, du coup, ça me paraît important aussi qu'il y ait une fluidité dans le transfert d'une monnaie vers une autre, le fait de pouvoir faire du change facilement. Donc pour moi, mon idéal par rapport à la June, ce serait de pouvoir l'utiliser, y compris institutionnellement, et de pouvoir la changer de façon fluide pour, notamment, d'autres monnaies libres.
Pourquoi acheter sa monnaie alors qu'on peut la créer nous-mêmes ? Partout en France, et pas que d'ailleurs, puisque la monnaie libre s'installe aussi dans d'autres pays du monde, des collectifs voient le jour, comme à Mayenne, où Benoît, Anne et Gaëlle ont créé le sou.
Moi, je suis Gaëlle Giron, une Mayennaise qui atteint la moyenne de vie. Alors, pourquoi j'ai eu envie d'intégrer la monnaie libre ? Tout simplement parce que j'ai un ami qui est venu m'expliquer. Alors, c'était au tout début du jeu Géconomicus, c'était le jeu de la corbeille. On jouait avec des billes et des bonbons. Donc, l'histoire de la monnaie dette et après la monnaie libre. Et là, je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire là. Vraiment, il faut tenter la chose. Et donc, j'ai creusé, j'ai étudié. Et là, j'ai compris un peu plus la monnaie libre. Et j'ai eu envie, j'ai envie de me lancer dans l'aventure. Quelque chose qui n'était pas du tout, pour moi, accessible. Quelqu'un qui est non informaticienne comme moi. Et en fin de compte, c'est vraiment pour tous, quoi. Et donc moi, ce que je fais dans la monnaie libre, donc je promouvois la monnaie libre grâce à l'association du Sou. Et je fais des conférences, j'ai des stands, je vais là où on nous demande. On fait des apéros dans la Mayenne, parce que je me situe en Mayenne. Parce que nous, en Mayenne, on est très proche de nos sous. Et donc, c'était le nom de l'association. Et avec cette association-là, nous avons fait une monnaie test avant que la monnaie libre la June soit lancée. On a fait une monnaie test grand public. Et donc, ça nous a permis de voir comment le grand public accueillait cette monnaie libre. Donc c'était très positif, ça nous a permis de corriger des erreurs sur les applications. Et donc ça nous a permis que quand la monnaie libre, la June, s'est lancée, d'être tout de suite au taquet et dans les premiers, quoi.
Alors l'association Le Sou, c'était initialement un projet de créer une monnaie locale, complémentaire à l'euro, monnaie papier essentiellement. Et puis petit à petit, on s'est aperçu que indexer une monnaie, donc une solution pour nous, parce qu'on cherchait une solution à l'économie, le problème économique actuel, indexer une solution sur le problème qu'est l'euro, ça ne pouvait pas créer quelque chose de très bon. Donc, on a réfléchi, on s'est mis en pause pendant une année, on a cherché de notre côté, chacun de son côté, et on a trouvé la monnaie libre en 2015, je crois.
Et la monnaie libre, c'est vraiment, à mon sens, beaucoup plus puissant qu'une monnaie locale complémentaire. Déjà, il faut savoir que une motivation importante pour lancer une monnaie locale complémentaire, c'est en général la prise de conscience de notre relation à la monnaie officielle, à l'argent, à la rareté, à tout ça. Parce que, comme on dit, si c'est juste pour dynamiser l'économie locale, il y a plus simple. Donc nous, on le faisait beaucoup dans cet esprit de sortir de notre prison mentale de la monnaie officielle, de l'argent, d'être... que tous nos choix pratiquement soient soumis à ce critère totalitaire d'avoir ou pas de quoi payer. Et alors pour ça, la monnaie libre, c'est encore beaucoup plus formidable, puisque c'est de l'abondance qui tombe tous les jours. C'est ce qui fait aussi que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, enfin que nous-mêmes, nous n'avons pas compris du premier coup, parce que c'est renversant.
Donc là, on est plutôt dans une phase de transition où là, les gens commencent à comprendre comment ça marche, la monnaie, ils l'essaient. Et donc, dans cette phase de transition, on ne peut pas tout trouver. Donc, on trouve en fonction. Là, par exemple, il y a 2 mois, il y a un ostéopathe qui est entré, nous, en Mayenne, qui est entré dans notre réseau. On va pouvoir la dépenser. Moi, j'ai des soucis de dos régulièrement, je vais pouvoir aller là-bas. On avait un coiffeur depuis un moment, donc moi, je la dépense personnellement pour mes coupes de cheveux.
Aujourd'hui, au quotidien, avec la monnaie libre, oui, ça ressemble à des échanges, un peu comme dans un système d'échange local, peut-être en plus important. Enfin bon, moi, je vois quand on a une bétonnière, un ster de bois, enfin, ou plusieurs, des choses comme ça. Déjà, ça, c'était rare au sel. Mais bon, disons, différents petits services, les livres, les confitures. On a même plusieurs producteurs excellents de confitures. On a aussi des producteurs professionnels, des éleveurs de volailles et producteurs de produits naturels de la ferme qui nous ont vendu des œufs, des sirops, des vinaigres parfumés merveilleux, etc. Enfin, on n'arrive jamais à se souvenir de tout parce que finalement, il y a énormément de choses. On a eu des objets tournés en bois magnifiques aussi. Et, enfin, il y a déjà énormément des soins, des formations.
Moi, l'impression que ça me fait, si je résume, c'est qu'on retrouve des trucs du bon sens, de la qualité, de la bonne bouffe, des produits locaux. Waouh quoi ! Et dans la joie, les gens sont valorisés. Enfin, ça promet quand même des bonnes choses, quoi.
Tout à fait. Et ce qui est formidable, c'est que on n'est pas du tout dans un esprit de concurrence ou de compétition. Et ça, bon, moi j'ai toujours été enthousiaste pour cette monnaie libre, mais au départ, je ne pouvais pas savoir comment ça se passerait. Fallait vraiment l'expérimenter. Et là, je peux dire, moi, si je dois dire au quotidien, c'est comment je la vis, la monnaie libre, je la vis comme un cadeau. Pas forcément un cadeau matériel avec les biens que je vais engranger comme ça au lieu de les avoir en euros ou de ne pas les avoir du tout, ou les services, mais parce que je constate que l'état d'esprit de cette monnaie, enfin des échanges qui se font, des échanges humains, des échanges de biens et services, est vraiment dans des valeurs que je porte moi très haut, enfin, qui sont très importantes pour moi, justement de plutôt de solidarité et même de dons. Il se passe énormément de dons avec la monnaie, soit qu'on se donne des junes, donc des unités, soit tout simplement qu'on dit « mais non, mais ça, je te le donne,
c'est pas parce qu'on a une
monnaie d'échange qu'on est obligé de tout compter. » Au contraire, une fois qu'on se connaît, enfin voilà, on a...
On a eu le cas de quelqu'un qui a acheté, c'était Gaëlle, qui est passé vous voir, qui a acheté un téléphone et elle n'avait pas le montant au moment où elle voulait faire la transaction. Elle a demandé, bon, on a tout de suite donné. Donc c'est marrant parce qu'en euros, les gens ont assez peu d'euros, ils y arriveraient peut-être moins. Ça se fait naturellement, quoi.
Et puis je peux te dire, au quotidien, c'est aussi de voir, tiens, qui est-ce qui s'inscrit, qui est-ce qui est membre, et puis de faciliter un peu ça, faciliter les certifications, accompagner les gens pour qu'ils comprennent, expliquer, organiser des rencontres où on va expliquer, parce que c'est formidable de partager ça, quoi. C'est tellement magnifique que j'ai vraiment à cœur de le partager, et puis d'écouter, écouter les questionnements, écouter les étonnements.
On est acteur assez vite, quoi.
Voilà, essayer de répondre au mieux, mais aussi, oui, de vraiment écouter ce que ça suscite chez les gens et pourquoi c'est difficile à comprendre, renversant, subversif, révolutionnaire, étonnant, etc.
La semaine dernière, j'ai surpris mon papa l'expliquer à un monsieur qu'il ne connaissait pas. Et mon papa a 76 ans, je trouve ça formidable, quoi. Parce qu'il se prend au jeu et les gens comprennent assez vite que c'est à eux de faire le boulot après d'expliquer aux autres. C'est propagatif, quoi. C'est assez...
Ah oui. Et puis, il y a aussi le fait que ça engage à rêver, je trouve, parce que ça ouvre un tel potentiel que tout ce qui nous paraît impossible pour l'instant, parce qu'on n'a pas assez d'euros pour ça, parce qu'on n'aura pas de subvention, parce que je ne sais pas quoi, là, on peut se prendre à rêver. Quand on voit en un an et deux mois à quel point ça s'est développé et tout ce que ça permet de plus en plus... pour moi, ça me semble illimité.
Mais c'est ici, à la Pointe Bretonne, que j'ai connu la monnaie libre par le collectif Pen Arjun, dont Olib est à l'initiative.
Donc, moi, c'est Olib, O-L-I-B, et Lib comme un peu libre quand même. Pen Arjun, c'était un petit, une façon de créer un collectif informel. Ça veut rien dire. Enfin, il n'y a pas de formalisation derrière, juridique ou structurelle, quelle qu'elle soit. Il y a un site internet qui est un outil de communication, une liste de diffusion, et puis du coup, des gens qui se rassemblent autour de ce projet de développer la monnaie libre. Et on en arrive donc à organiser donc ces rencontres de la monnaie libre ici à Douarnenez. On arrive à la monnaie libre par plein de biais différents. C'est-à-dire que le fait que ça soit un outil monétaire, déjà, ça parle à tout le monde. On ouvre vraiment le champ des purs militants à d'autres mondes, quoi. En tout cas, de mon point de vue. On transcende, quoi. On transcende à fond avec la monnaie libre. Et c'est ça qui est chouette. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans la monnaie libre, c'est le fait qu'on n'ait pas forcément de tarifs et qu'on propose juste une participation ouverte et libre. Et de ne pas substituer la monnaie libre aussi à des échanges qu'on fait déjà en mode troc, quoi. C'est un outil supplémentaire pour libérer un peu les échanges, faciliter des choses qu'on ne faisait pas forcément naturellement. Et c'est ça qui est vachement intéressant dans cet outil-là aussi. C'est que ça crée de la dynamique, enfin ça favorise la dynamique. Ça cristallise des choses qui étaient souvent un peu contrites, quoi, un peu refermées, quoi. On s'est embarqué dans des dépendances et dans des systèmes de facilité. On a abandonné la réflexion. La monnaie libre nous reconduit vers la réflexion. Et c'est pour ça qu'on s'est penché là-dessus. La réflexion de qu'est-ce que c'est d'avancer ensemble. La particularité principale de l'Homo sapiens, c'est son cerveau quand même. C'est quand même pas mal de l'utiliser. La monnaie libre, c'est un excellent outil pour faire fonctionner nos neurones. Dès lors qu'on arrive à prendre le temps, et c'est pour ça que nos petites histoires de collectif, d'animation, d'atelier, tout ça, sont des temps qu'on s'octroie pour pouvoir penser ensemble et réfléchir ensemble à comment on va réussir à faire un peu autrement que dans le système carcéralo-économique, et qu'on va pouvoir se libérer un petit peu de ces pressions-là. Et plus on arrivera à créer de cette bulle, de ces petits moments-là, comme on fait là sur les rencontres, à mon avis, plus on arrivera à effectivement développer des choses beaucoup plus pérennes et non dépendantes à des choses extérieures qui nous dépassent, quoi. On a tous les moyens de faire en sorte qu'on ait une vie sociale et économique dans nos petits territoires, y compris ici au bout du Finistère. Il y a tout ce qu'il faut sur place. Et c'est vrai que d'avoir un outil monétaire qui facilite les échanges, ça peut nous permettre vraiment d'aller beaucoup plus loin.
Il n'y a pas d'erreur, coco, pour faire aller le bateau. Du tac au tac, t'avais une brique.
t'as plus de petit sac et tu te retrouves gégène comme un clan dans la gêne.
Ben, moi je m'appelle Bernard Lombard, j'habite dans le Tarn, à 40 km de Toulouse. Je crois que j'ai adhéré à la June au mois de décembre 2017 et j'ai commencé à produire ma monnaie le 24 janvier. Alors ça c'est carrément jouissif. Alors ça, tu l'as sous le nez, quoi. La première fois que tu crées ta monnaie, que tu vois qu'il y a sur ton compte 10 junes par jour, c'est extraordinaire. Tu es dans un autre monde. Tu te sens plus en sécurité. Tu as envie d'apporter ce qu'on d'échanger. Tu as envie. Voilà, quoi. C'est complètement différent. C'est un monde nouveau. C'est un monde beaucoup plus crédible que le système actuel, qui est comme un gros système de pillage. Si je regarde comment est fait le crédit, par exemple, le crédit actuel, c'est quand je veux un crédit pour acheter une voiture, par exemple, je demande 10 000, on écrit 10 000 sur mon compte. Chaque fois que je rembourse 1 000, on enlève 1 000 de mon compte. Ce qui fait qu'au bout du compte, j'ai plus rien. Par contre, la banque, elle garde les intérêts, elle garde les frais d'assurance, elle garde tous les autres frais. Alors, elle s'enrichit, moi, je m'appauvris. Et chaque fois que tu as fait un crédit, quand tu as fini de le rembourser, si tu as un nouveau besoin d'argent, il te faut en refaire un autre. Mais le problème, c'est que toi, il t'a fallu aller le chercher quelque part, puisque ça n'existe pas, ça n'a jamais été créé. Et c'est ça qui crée la concurrence entre personnes, qui crée une compétition féroce, alors qu'il y en a une grosse partie qui n'existe nulle part. Ça, c'est une honte comme système. C'est vraiment un système de pillage, d'arnaque, quoi. Et moi, je pense que même les banquiers ne sont pas vraiment contre nous. Ils comprennent bien que leur système, bon, si tu veux, c'est un héritage, quoi. Et c'est comme on t'a appris quelque chose, tu le reproduis, et puis voilà, c'est ça qui te fait gagner la vie. Alors, bon.
Tandis que nous approchions de l'ère de départ, un banquier demanda.
Maître, parlez-nous de l'argent.
Et la voix ferme de sa sagesse fit courber nos têtes.
Leur argent n'est pas leur argent. Il est là pour multiplier. Souvenez-vous de la parabole « Malheur au serviteur qui ne fait pas fructifier ses deniers ». L'argent doit bouger, circuler, germer, quitter les bas de laine pour alimenter l'économie et la croissance. Leur argent n'est pas leur argent, comme leurs maisons ne sont pas leurs maisons, mais l'occasion de prêts, de taxes, d'impôts et de droits de succession. Quel fou a jamais pu croire qu'un seul denier lui appartenait ? Quel insensé a jamais pu rêver que la maison où il demeurait était vraiment la sienne? C'est à tout jamais qu'il doit nous payer loyer et dividendes. Leur argent n'est pas leur argent. Il est une colonne de chiffres dans le grand livre de nos écritures. Une colonne que nous pouvons biffer si notre raison l'impose. Car l'argent est sorti de l'infamant réel qu'il indexait sur le travail et sur la sueur. Nous l'avons rendu aussi volatile que l'air. Il peut à la seconde se multiplier par millions, comme disparaître sous nos coups de gomme. Il est l'alpha et l'oméga, le seul et l'unique. Il est celui qui est, sans commencement ni fin, le divin incréé.
Y a pas d'erreur, coco, pour faire aller au bateau. Faut du coco, du bon, du beau. Y a pas d'erreur, coco, pour faire aller.
J'aime pas le pognon, ça me donne la migraine. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas satisfait. Ces soucis-là, on ne sait pas où ça nous mène. On a ce qu'on a. Moi, je compte pas en billets. Pourtant, j'aime bien la petite monnaie. Les sous qui chantent, ça fait rêver.
On arrive au bout du système économique. Là, on tire sur le bout, on tire sur toutes les ficelles. On n'arrive pas à trouver d'ouverture derrière ça. Ça se referme systématiquement. La réalité du monde du travail, qui est un truc qui en soi déjà est quand même assez hallucinant, en tout cas de mon point de vue, et au bout de son histoire. On est au bout de cette histoire-là. On se rend compte qu'on est au bout de cette histoire-là. Les institutions se rendent compte. On a besoin de compétences. mais sous la forme travail, rémunéré, tel que c'est fait aujourd'hui, avec une monnaie d'aide comme ça, on est au bout de cette histoire-là. Donc la question, elle n'est pas d'adapter la June au monde du travail conventionnel d'aujourd'hui. Elle est de faire en sorte de vraiment créer des alternatives. Donc ça se rencontrera par petits moments. Mais de mon point de vue, c'est pas, il ne faut pas qu'on fasse des efforts d'intégration de la monnaie libre au système de la monnaie dette, en tout cas au système travail. Mais beaucoup plus de réussir à faire en sorte que la monnaie libre puisse vivre d'elle-même et que du coup le système économique fonctionne en tant que tel. Parce qu'on a en nous et dans nos collectifs, dans nos réseaux, tout à fait la capacité de pouvoir répondre à des questions, y compris sur des questions entre gros guillemets d'assurance maladie ou système comme ça. La solidarité humaine, ça existe, on est capable de pouvoir la mettre en place à nos petites échelles.
Alors moi c'est Loïs Guéguin et je suis éthiopathe, j'exerce l'éthiopathie là, du coup, sur Douarnenez depuis 2012. Je propose des séances d'éthiopathie en échange de june, voilà, ceux qui veulent payer en june, ceux qui veulent payer en euros le font en euros, mais en général voilà, les gens me connaissent un petit peu, donc on discute et puis savoir si je prends les junes ou alors ils viennent maintenant, le bouche à oreille commence à se faire aussi à ce niveau-là. Légalement, c'est pas très clair encore. Enfin, en tout cas, pour moi, j'en ai parlé un petit peu à mon comptable qui n'en avait jamais entendu parler. Pour lui, c'est comme si on faisait une séance, qu'on faisait pas régler une séance. Voilà, pour lui, ça n'a pas de valeur encore. Donc, au terme, légalement, moi, je le déclare pas. Hein, donc, je fais des séances comme si je faisais un troc ou comme si je dépannais à un ami qui m'échange la séance contre une botte de poireaux et un jus de pomme. Pour l'instant, c'est un peu ça, c'est comme ça que je vois les choses.
La monnaie libre avec les professionnels, comment est-ce qu'ils peuvent fonctionner légalement? Bah, comme toutes les autres crypto-monnaies, en fait. On a déjà l'exemple du Bitcoin qui est accepté par plusieurs restaurateurs à Paris, par des magasins. En fait, comme toutes les autres cryptos, légalement, d'après l'État français, ce sont des crypto-actifs. Donc, il faut les déclarer comme actifs de son entreprise. Tout comme on déclare un parc de machines, par exemple, si vous avez des bureaux, des ordinateurs, des locaux, vous le déclarez comme un actif de l'entreprise. Et ben, c'est pareil pour vos junes, c'est un actif en fait. Vous déclarez que vous avez à la fin de l'année 5000 junes, par exemple. Et tant que vous ne changez pas ces junes contre des euros, ce n'est pas taxé. Évidemment, ça peut évoluer à l'avenir, ça on ne sait pas.
Donc on peut vendre à peu près n'importe quoi en junes. Alors il faut être prudent, comme je dis souvent. Bon, c'est une monnaie quand même qui débute, c'est une expérience, donc il ne faut pas non plus s'emballer, développer une activité en june, vendez une partie de votre activité en june, mais donc si vous êtes prestataire de service, ben, vendez un jour par mois en june, voilà, ce genre de choses. Mais ne mettez pas en danger votre activité économique, développez-la progressivement, et si ça fonctionne bien, si en échange des junes que vous avez pu vendre, vous pouvez à votre tour acheter des biens ou des services proposés par d'autres en june, eh bien faites-le, mais si vous n'avez pas vraiment de contrepartie, si vous n'arrivez pas à trouver de contrepartie, ben allez-y doucement, quoi. Voilà. Donc allez-y mollo et essayez à chaque fois d'obtenir une contrepartie pas trop éloignée dans le temps, en fonction de ce que vous voyez. Comme ça, vous participez au développement de la June sans mettre en danger votre équilibre économique.
Mes attentes déjà, c'est qu'on soit plus de développeurs pour avoir quelque chose de plus costaud, de plus fiable, qui puisse monter à l'échelle, qui soit un peu plus sérieux. Et qu'on ait aussi qu'on puisse commencer à financer en june des développeurs pour en avoir à plein temps, parce que toutes les autres crypto-monnaies ont des développeurs à plein temps en fait. Mais pour ça, il faut qu'on ait déjà un réseau de biens et de services pour que les personnes qui ont un salaire en june puissent effectivement les utiliser, que ça leur serve pour payer leurs besoins quotidiens. Et pour ça, il faut qu'on ait suffisamment d'utilisateurs pour qu'il y ait un réseau de biens et services suffisamment diversifié. Donc c'est un peu le cercle vicieux, puisque pour avoir l'un, il faut l'autre, et les deux sont liés. Donc je pense qu'on va encore ramer un moment jusqu'à un effet de seuil, où là, le cercle vicieux va se transformer en cercle vertueux, je pense.
Soutenir les développeurs, c'est utile, parce que ça prend beaucoup de temps de créer tout ça. Les soutenir en june, c'est bien. Les soutenir en euros ou autres, c'est bien aussi. Les aider en leur fournissant des retours de bugs, en leur montrant des cas d'usage et ce qui pourrait être fait pour les faciliter, c'est très utile aussi. Donc voilà, il y a tout un tas de façons de soutenir le développement des monnaies libres.
Je fais le pari, moi, que si la monnaie libre marche et prend, que dans quelques décennies, on aura une désertification des villes et un repeuplement des zones rurales. Je pense que la maladie peut avoir cet effet-là. Elle aura bien d'autres effets aussi, plus généralement, je le disais à un moment, sur la politique et sur la structure même de nos sociétés, puisqu'une monnaie, c'est... La société, c'est quoi ? C'est les interactions entre les hommes et les femmes, entre les humains. Et la première forme d'interaction entre les humains, c'est d'abord les échanges économiques. Donc une monnaie, ça structure une société. Et aujourd'hui, vous avez par exemple Jean-François Nouvel qui en parle très bien, je cite souvent ses travaux dans mes conférences, qui décrit plusieurs formes d'intelligence collective et qui montre que finalement, notre système monétaire, qui est la monnaie dette, est très lié à la forme d'intelligence collective pyramidale, avec une hiérarchie, avec un président qu'on élit, etc. Et pour moi, il y a vraiment un lien très fort entre les deux. Et donc, mécaniquement, si la monnaie libre marche et se met en place et qu'il y a des millions d'utilisateurs, ça va aussi impliquer d'autres modes d'organisation sociétale, d'autres modes d'organisation politique, beaucoup plus horizontaux. Et donc, ça peut aller vraiment loin. Et voilà, donc moi, je suis très optimiste pour l'avenir avec tout ça. La seule question, c'est combien de temps ça prendra, vraiment. Et est-ce qu'on nous mettra des bâtons dans les roues et à quel niveau, voilà, ça je ne sais pas. J'ai pas le boule de cristal, mais voilà, je pense que ça peut vraiment changer beaucoup de choses en profondeur.
Pour moi, l'avenir de la monnaie libre, c'est vraiment de sortir d'un système où tout est fait pour que les richesses, entre guillemets, soient de plus en plus concentrées. Et qu'il y ait des gens richissimes qui soient assis sur leur coffre-fort et en ayant bien sûr peur de le perdre. Bon. Et on voit quand on regarde les graphiques, les projections dans l'avenir avec la monnaie libre, tout tend vers l'équité, vers la réduction des inégalités. Donc c'est vraiment inverser la tendance par rapport au système d'aujourd'hui qui est fait pour creuser les inégalités. Ou même s'il n'a pas été fait pour ça au début, ben c'est vraiment ça qu'il ne cesse d'accentuer, et passer à un système qui réduit de plus en plus les inégalités. Et franchement, on le voit, enfin pour moi, c'est évident, quand je vois ce qui se passe avec la monnaie libre, que dans la Genèse, il y a ça, et que c'est ça son ADN, quoi. C'est pas pour rien, en plus, si elle s'appelle June, si c'est une monnaie féminine, une monnaie yin, c'est vraiment plutôt les valeurs de coopération, de dons et de solidarité, enfin de créativité, de respect de la vie, etc., qui sont stimulés, pour, me semble-t-il, hein, par cette monnaie.
On s'est plaisir parce qu'on est entre gens consentants qui ont envie de rêver d'un autre monde, quoi, et pas que dans une chanson, quoi. Et ça, c'est ça, imagine. La June, c'est un rêve. C'est un rêve, et comme on est assez fou pour y croire, et ben ça marche. Mais la monnaie est un rêve. Aujourd'hui, la monnaie conventionnelle, dite monnaie dette, c'est un rêve. C'est parce que les gens y croient, sinon elle est rien. Qui c'est qui croit qu'un morceau de papier ça a de la valeur ? C'est juste parce qu'on y croit. Hein. C'est qu'une histoire de croyance, tout ça. Donc nous, on a envie de croire à des trucs de temps en temps un peu alternatifs, et du coup on le fait.
Un an d'existence, plus de 1000 membres co-créateurs, des utilisateurs qui testent, qui expérimentent et font petit à petit de la June une monnaie du quotidien. Ces rencontres ont lieu tous les 6 mois dans différentes villes et sont l'occasion de débattre, d'échanger, de confronter nos expériences d'utilisateurs pour faire avancer ensemble ce grand projet.
Alors, si j'avais invité les auditeurs à découvrir la June, bah, ce serait de s'autoriser à rêver un petit peu qu'on peut sortir de l'ornière dans laquelle on est. Ça, c'est le premier pas, quoi. Croire qu'on peut faire quelque chose parce qu'on nous a farci la tête que c'est comme ça, c'est un système qui est au-dessus de nous, on ne peut pas changer. Tant qu'on pense que la monnaie, c'est neutre, que l'euro est une monnaie d'État complètement neutre, non, bah, on se plante. Donc, il faut, voilà, je les invite vraiment à se plonger là-dedans. Et vous allez voir, on en ressort joyeux parce qu'on se rend compte qu'on peut faire la même chose que les banques privées, qui, je le rappelle, créent la monnaie, la plupart. Et on peut faire la même chose qu'eux, rien ne nous en empêche. Donc on est libre, quoi. C'est mon invitation.
Mon invitation, c'est de l'explorer, c'est-à-dire de s'inscrire, de commencer à faire des échanges. Et vous verrez, je pense que vous vous prendrez au jeu. En tout cas, ça sera une exploration probablement passionnante.
Venez de la June, ne serait-ce que pour voir tout ce que vous êtes, ce dont vous êtes capable, quoi. Parce que vous allez voir que vous pouvez. Là, vous pouvez maintenant, on vous donne le pouvoir. Vous avez la June, ça vous permet d'échanger ce que vous voulez avec qui vous voulez, sans contrainte. Donc alors après, à partir de là, vous devenez beaucoup plus inventif, beaucoup plus créatif, beaucoup plus... vous pouvez faire plein de trucs, quoi.
Pour l'instant, on est des pionniers. Alors bah, venez faire partie des pionniers pour construire le monde de demain, parce que vraiment, la monnaie, c'est le centre. Voilà, donc vraiment, prenez le temps. Que ce soit pour vous ou pour vos enfants, si vous avez des enfants, des petits-enfants, pensez à eux, vraiment. Et allez lire, allez sur duniteur.org, allez lire la théorie relative de la monnaie, allez sur les forums, posez des questions. C'est vraiment important, parce que la monnaie, c'est... La monnaie d'être aujourd'hui, elle est quand même responsable de la plupart des maux de notre société, de la nécessité de la croissance, et donc de l'exploitation des ressources à outrance, de plein de choses. C'est vraiment l'une des causes des causes, et vraiment, c'est quelque chose à creuser. Donc prenez du temps de vie pour ça.
Il y a une chose qu'on a, c'est la seule chose qu'on a, c'est le temps. Et si on s'amuse à utiliser ce temps pour que ça soit vraiment enthousiasmant, qu'on se dise « ouais », qu'on arrive à rebondir de « ouais » en « ouais », de complicité, de petits regards comme ça, de petits appuis qu'on peut se faire les uns les autres, on peut avoir une vie vraiment satisfaisante, quoi. Et je pense qu'on arrivera à partir les uns les autres avec le sourire aux lèvres. Du coup, la monnaie libre, pour moi, c'est un peu ça. Ça participe de cet ensemble-là. Voilà, la monnaie libre, c'est un outil joyeux.
Bah, le message d'invitation, bah, c'est reprenez votre souveraineté monétaire. Voilà, créez la monnaie vous-même plutôt que de laisser votre banquier le faire. Parce que forcément, il gérera pas selon vos intérêts, mais selon les siens. Et de toute façon, la monnaie, c'est un bien commun, normalement. Donc ça devrait être à nous tous de la créer. Donc c'est votre droit, en fait. Donc venez faire valoir votre droit et rentrer dans le réseau pour qu'on crée enfin notre économie qui ne dépend plus d'un système injuste.
Dans les banques, il n'y a pas que de l'oseille. Il y a des employés qui font leur métier, et puis c'est bien comme ça. T'en as ? Moi pas. Quand j'en aurai, ça va changer. Je me payerai des habits prince de Galles, et j'aurai des amis dans la salle. T'en as ? Moi pas. Quand j'en aurai, ça va changer. Et quant au pépé, j'aurai plus qu'à me baisser, puis qu'à les ramasser. À moins qu'elle puisse grimper.
Un grand merci à tous les intervenants pour leur témoignage libre. Utilisation d'extraits non libres de Michel Picmal, des Pink Floyd, de Léo Ferret et de Philippe Léotard. Lucie Ardouin.com